Classique, hein. En la plaçant aussi dans la continuité de ce que nous avons évoqué dimanche dernier, cet encouragement pour petits et grands à la confiance en Dieu. Et ce matin, je propose de poursuivre en se questionnant. Quand on parle de confiance en Dieu, que sont les implications? Quelles conséquences y a-t-il au fait de placer sa confiance en Dieu? Qu'en espère-t-on? Qu'en attend-on? Le sujet est vaste, mais on regardera quelques aspects. Et Corentin, si tu peux mettre la première dia. Pour commencer, peut-être une question qui fâche. Vous me connaissez, j'aime bien poser des questions peut-être un peu dérangeantes. Seigneur, j'avais mis ma confiance en toi. Pourquoi as-tu permis que ceci ou cela arrive? Seigneur, j'avais mis ma confiance en toi. Pourquoi as-tu permis que ceci ou cela m'arrive ou arrive? Bon, vous, évidemment, vous ne posez jamais ce genre de questions. Mais j'avoue que personnellement, ça m'a déjà traversé l'esprit. Très furtivement, bien sûr. Alors peut-être que ça peut arriver à d'autres que moi. Quand un accident ou une panne de voiture arrive, quand un proche ou soi-même fait une grave chute, quand un examen médical donne des résultats inquiétants quant à votre santé, quand arrive une dépense imprévue à laquelle on doit faire face alors qu'on n'a pas le budget, quand je subis cette attaque contre moi de ce collègue fréquemment imbuvable alors que j'essaye toujours de refléter Christ, moi, dans mon comportement et je n'aspire qu'à une chose, un environnement paisible, etc., etc. Plein de registres peuvent être concernés et la confiance touche de fait tous les domaines de notre vie, des grandes choses jusqu'aux petites choses. Seigneur, j'avais mis ma confiance en toi. Pourquoi arrive-t-il ou m'arrive-t-il ceci ou cela? Questionnant, trahissant quelque peu la logique que nous avons peut-être, faisant quelque peu ressortir le type d'attente que nous mettons derrière la notion de confiance en Dieu, avec en filigrane une certaine incompréhension peut-être. Peut-être aussi même un réflexe un peu automatique de sentiment d'injustice. C'est pas normal, c'est pas juste que ça m'arrive, puisque j'ai mis ma confiance en Dieu. Sous-entendu, peut-être que Dieu n'a pas protégé ou épargné comme il aurait dû, ou comme il aurait pu en tout cas. Bon, si vous pensez jamais ça, tant mieux, hein, changez rien. Changez rien si vous pensez jamais cela. Vous jouissez déjà alors d'une belle maturité chrétienne, et alors encouragez-moi, encouragez les autres sur cette belle et bonne voie. Il ne s'agit en tout cas pas de trouver des problèmes là où il n'y en a pas, mais je vous propose de quand même poursuivre ensemble encore un peu la réflexion sur ce sujet. Dieu n'a peut-être pas protégé comme il aurait dû ou comme il aurait pu. Tout d'abord, tordons le cou à quelques idées reçues qui ne sont pas justes. On les retrouve fréquemment dans la logique du monde et peut-être qu'insidieusement, inconsciemment, cela nous influence aussi. Et je prends un exemple biblique particulier pour illustrer ce premier propos. Quelques versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27. À partir du verset 35, ils le crucifièrent. Ces quelques premiers mots nous aident évidemment à cerner la situation. La mort injuste, la condamnation injuste de Jésus. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descend donc de la croix, alors nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, Si Dieu l'aime, disent d'autres traductions, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le délivre. Exemple particulier, exemple extrême. Mais puisque Jésus a mis sa confiance en Dieu, la logique voudrait que Dieu le délivre. Plus encore, la logique ne voudrait-elle pas qu'il n'ait même pas été soumis à cette épreuve ? La logique humaine le dit en tout cas. Et dans ce passage, plusieurs le pensent et le disent. En effet, pour les Juifs qui expriment cette pensée, il n'y a pas de doute quant à la fiabilité de Dieu. Ce sont des religieux et ces personnes avaient une certaine connaissance de Dieu et du caractère de Dieu. Ils savaient que Dieu est digne de confiance. Mais ils se trompaient dans ce que se devait nécessairement impliquer cette confiance. Pour eux, dans leur logique, si tu as placé ta confiance en Dieu, et si Dieu t'agrée, si Dieu prend plaisir en toi et s'il t'aime, alors nécessairement, il te délivrera. Nécessairement, il te délivrera. Et sinon, nécessairement aussi, une non-délivrance sera la preuve que tu n'es pas agréé par Dieu, que Dieu te rejette, que Dieu ne t'aime pas. Logique, non ? Et non, pas logique. Pas logique selon la logique et la sagesse divine. Pour ces religieux, la situation de Jésus, en grande détresse pour le moins, contredit de toute évidence ce qu'il a pu dire. La situation contredit de toute évidence sa prétention d'être un intime de Dieu. La situation contredit de toute évidence sa prétention d'être fils de Dieu. Oui, il y a de fait un problème avec cet homme. En cet homme. À leurs yeux, en tout cas. Il ne peut pas être aimé de Dieu. Il ne peut pas être le Fils de Dieu. Or, s'il y a bien quelqu'un pour lequel nous ne pouvons pas avoir le moindre doute ou le moindre soupçon de problème de confiance en Dieu, c'est bien Jésus. S'il y a bien quelqu'un pour lequel nous ne pouvons pas avoir le moindre doute quant à sa confiance en Dieu, c'est bien Jésus. Sa confiance a toujours été parfaite. Et pour cause, Jésus connaissait parfaitement le Père. Parfaitement, absolument parfaitement. S'il y a bien quelqu'un pour lequel nous ne pouvons pas avoir le moindre doute quant au fait que Dieu l'agrée et que Dieu l'aime, c'est bien Jésus. S'il y a bien quelqu'un dont nous ne pouvons pas avoir le moindre doute quant au fait que Dieu l'aime, c'est bien Jésus. Par deux fois, une voix venant du ciel a en effet affirmé que Jésus est le Fils bien-aimé. Et pour cause, l'amour de Dieu est toujours parfait pour quiconque, et a fortiori pour Dieu le Fils fait homme. Il n'y a bien sûr pas de problème de plaisir de la part de Dieu en Jésus-Christ. Il est son envoyé, celui qui a accompli et accompli parfaitement et toujours la volonté divine. Bref, la logique humaine, la logique des religieux était assurément fausse. En tout cas, pas celle de Dieu. Notre logique est peut-être aussi parfois fausse, mal influencée. N'ayons de fait pas non plus cette même logique quand nous considérons les événements qui peuvent nous arriver ou les événements qui peuvent arriver à nos frères et sœurs en Christ. Bon, comme j'ai dit, c'est un exemple extrême et tout particulier. Il faut bien en convenir. Nous ne sommes pas Jésus. Notre confiance n'est pas toujours aussi assurée. Notre connaissance et notre mise en œuvre de la volonté divine n'est pas toujours aussi certaine. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas Jésus. Et à bien des égards, nous ne sommes pas encore comme Jésus. Nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes appelés à lui ressembler. Et nous sommes en train de grandir à son image. Le Saint-Esprit œuvre en nous dans ce but. Nous ne sommes pas le Fils de Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes cependant quelques-uns de ses fils et de ses filles de Dieu. nous sommes aussi bien-aimés de Dieu. Une voix divine, la Bible, parole de Dieu, nous l'affirme aussi. Avec tous les privilèges et toutes les grâces que cela implique, ne l'oublions pas non plus. Mais si notre confiance est effectivement en Dieu, pourquoi nos souffrances alors ? Mais si Dieu est amour, pourquoi nos épreuves alors ? Difficile à comprendre humainement parlant, hein ? Quasi impossible à comprendre pour qui ne connaît pas Dieu intimement, en tout cas. C'est effectivement tellement antinomique. Mais en tout cas, à l'exemple de Christ, à l'exemple de nombreux chrétiens dont on peut connaître l'histoire, nous le savons bien, le fait de placer notre foi en Dieu ne nous exempte pas de l'épreuve. Le fait d'être bien aimé des dieux ne nous épargne pas de la souffrance. Nos attentes en sont-elles déçues ? Nos attentes en sont-elles déçues ? Bien sûr, Dieu garde, et bien heureusement, Dieu agit. Mais à bien y réfléchir, en observant quelque peu, il me semble que la vie chrétienne ne se différencie pas vraiment par le nombre ou la gravité des maladies qu'un chrétien peut avoir ou ne pas avoir. Si de telles statistiques existaient, il est probable qu'elles montreraient que les chrétiens ne sont en moyenne ni plus ni moins malades que les autres individus. Si ? Non ? La vie chrétienne ne se différencie pas par le nombre d'accidents qu'un chrétien peut avoir ou ne pas avoir. Et si de telles statistiques existaient aussi, il est probable qu'elles montreraient que les chrétiens ne sont ni plus ni moins à avoir des accidents que les autres individus. Si ? Non ? Si de telles statistiques existaient, il est probable que les chiffres montreraient que les chrétiens n'ont ni plus ni moins de galères ou de déboires ou de problèmes du quotidien que les autres individus. Du haut de ma faible expérience, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Peut-être que je me trompe, ou peut-être qu'on essaye de se persuader du contraire. Alors quel avantage à être chrétien ? Quel intérêt à être chrétien ? Franchement, question là encore volontairement provocante, et volontairement formulée avec des mots qui ne sont pas nécessairement les bons. Le monde réfléchira probablement en ces termes, effectivement. Mais nous, suivons-nous le Seigneur par intérêt ? Suivons-nous le Seigneur par intérêt ? Servons-nous Dieu pour en tirer avantage ? Servons-nous Dieu pour en tirer avantage ? Évidemment que nous avons intérêt à être sauvés plutôt que perdus. Évidemment que c'est un avantage de vivre dans la communion retrouvée avec Dieu. Mais nous savons bien que les choses se situent sur un autre registre, que c'est un tout autre vocabulaire que nous utiliserions pour mettre des mots et définir la teneur de la vie chrétienne. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, je crois qu'elle ne se définit pas, qu'elle ne se différencie pas par moins d'épreuves ou moins de difficultés. Mais la suivante, Pedro. Mais je crois que l'on pourrait par exemple dire que la vie chrétienne se différencie à l'accomplissement de la volonté de Dieu et la satisfaction et la paix que cela induit. Dieu garde et Dieu agit, et la vie chrétienne se différencie effectivement à l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez que c'est un verset que j'aime beaucoup, celui-là, je le sors souvent. Que l'on reçoit de Dieu et qui sont vécus par le chrétien ou la chrétienne. Le pardon aussi. Et avec le soutien du Saint-Esprit, la vie chrétienne se différencie aussi par la communion, l'intimité, la relation vivante, l'espérance, le salut, la vie éternelle et plein d'autres choses encore que nous possédons, que nous vivons, que nous espérons, même si c'est à travers les mêmes circonstances que bon nombre de nos contemporains des non-chrétiens à travers toutes circonstances, faciles comme difficiles. Sans impact sur les statistiques de maladies, d'accidents ou autres, ces réalités spirituelles aux effets bien concrets font certainement une différence. J'espère qu'elles font, pour vos vies, une différence. Même si encore beaucoup de choses nous échappent, nous comprenons déjà que le hasard n'existe pas. Nous savons que la fatalité n'existe pas. Au contraire, nous savons Dieu souverain et qu'il a un plan dont nous comprenons quand même le sens global et les grandes lignes en tout cas, parce que Dieu nous les a dévoilées dans sa parole. Les événements peuvent être conséquences de péchés, le nôtre ou celui d'autres personnes, conséquence d'être dans un monde déchu. Mais pour bien d'autres, nous voyons effectivement, malgré les difficultés, malgré les problématiques, nous voyons la grâce de Dieu. Et même dans ces temps difficiles, nous apprenons reconnaissance, satisfaction, contentement. Et on l'a évoqué ce matin aussi, peut-être que c'est une obligation en tant que communauté à être solidaire, à se soutenir les uns les autres. On ne peut pas se dire, bah, ça c'est le problème des tabarets, hein, c'est pas le mien. Même dans tous ces événements-là, il y a des grâces communes comme le soleil ou la pluie, la beauté d'un ciel étoilé, et des grâces particulières, nos dons, nos capacités, le souffle de vie, le salut, la santé, la guérison. Et nous voyons, et c'est là certainement une différence du point de vue du chrétien par rapport au non-chrétien, nous voyons comme une grâce de Dieu, effectivement, les guérisons, le relèvement dans ou suite à l'épreuve. Même si des autres diront, bah non, ça c'est l'ordre normal des choses. On est malade, à bout d'un moment, on guérit. Beaucoup parmi nous peuvent pourtant témoigner, effectivement, de l'œuvre de Dieu et de l'action de Dieu dans ces situations difficiles. Et c'est pour nous des occasions de reconnaissance. Des occasions de reconnaissance. Et ça fait des différences notables, je pense, effectivement, par rapport aux autres qui n'ont pas cette foi. Même si les statistiques ne nous différencie pas. Enfin, je pense aussi que la compréhension de l'éternité fait une différence notable dans la vie des chrétiens, une différence majeure. Nous comprenons, nous commençons à comprendre, en tout cas, nous évaluons les choses à l'échelle de l'éternité. Même si c'est des fois loin d'être facile d'avoir ce recul. Loin d'être facile, mais nous pouvons demander à Dieu cette maturité aussi, pour arriver à dire comme l'apôtre Paul pouvait le dire, et pas juste comme une auto-persuasion psychologique qui nous apaiserait. Paul écrivait « Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. » Bon, lui, il avait déjà une sérieuse maturité spirituelle que je ne suis seulement qu'en train d'acquérir pas à pas. Mais c'est assurément à réfléchir, à méditer. Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ce n'est pas pour banaliser ou minimiser les choses difficiles d'ici-bas, et il y en a. Et a fortiori pas les banaliser ou minimiser quand ce n'est pas moi qui les vis. Mais voir notre vie terrestre à l'échelle de l'éternité permet aussi assurément de les replacer dans une juste et plus large perspective. Dieu nous y encourage, en tout cas, je crois. Mais Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton aide sur ce coup-là. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton aide. Dieu n'a peut-être pas protégé comme il aurait dû. Dieu n'a peut-être pas protégé comme il aurait pu. Dans la définition du mot confiance, dans le nouveau dictionnaire biblique, un dictionnaire qui essaie de nous donner l'explication des mots selon leur usage dans la Bible, j'ai trouvé intéressante la phrase suivante. La confiance en Dieu se démontre en partie dans la détresse par le renoncement à des actions non conformes à la volonté de Dieu pour se tirer d'embarras. Dans l'attente de l'intervention divine, puisque Dieu est fidèle, il s'attend à ce que l'homme lui fasse confiance. La confiance en Dieu fait que l'on n'essaye pas de s'en tirer tout seul, et a fortiori pas en essayant de trouver des solutions que Dieu n'agréerait pas. Mais l'on s'attend à lui, on se réfugie en lui, on crie à lui. C'est peut-être une partie de ce que Dieu veut que nous apprenions par ces situations qu'il permet et même décide. Un exemple, dans les situations de difficultés matérielles, je pourrais être tenté de voler, d'escroquer, de ne pas payer le bus. Non, nous n'envisageons même pas de telles alternatives. Je fais confiance à Dieu qui pourvoit. Directement ou via d'autres personnes, même si des fois, souvent, c'est peut-être à la dernière minute, voire à la dernière seconde. Autre exemple, bien heureusement, nous en sommes largement épargnés dans notre pays, mais dans d'autres pays, pour une obligation administrative, ou pour obtenir un soin médical, un soin sans attendre des jours ou des mois, parce qu'il y a urgence, on peut ou on doit faire intervenir des relations. On peut ou on doit payer un petit ou un gros bakchich, un pot de vin pour faire avancer les choses en notre faveur. Non, nous n'envisageons même pas de telles alternatives. Je fais confiance à Dieu qui pourvoira, qui ouvrira les portes. Pas toujours facile, hein, sur des choses concrètes comme ça. Mais peut-être que cela donne un certain sens à l'épreuve, au test auquel Dieu nous soumet. J'attends avec confiance l'intervention de Dieu. J'attends avec confiance l'intervention de Dieu qui viendra peut-être pas. Je garde confiance même s'il décide de ne pas intervenir. On a évoqué à juste titre plein d'exemples ce matin où Dieu est intervenu. Mais si Dieu n'intervenait pas, avons-nous confiance en Dieu et ou confiance en l'intervention de Dieu? Il y a une nuance entre les deux, nuance importante. Confiance en Dieu et ou confiance en l'intervention de Dieu? Moi, je dis qu'il faut les deux. On peut avoir les deux, on doit avoir les deux. Mais ma confiance en Dieu n'est pas dépendante de son intervention. Ma confiance en Dieu n'est pas dépendante de son intervention. Ma confiance en Dieu ne doit pas être dépendante de son intervention. Et là, ça se complique peut-être. Je suis tellement impressionné, admiratif, songeur aussi, savoir comment moi je ferais, et encouragé quand même par l'exemple des amis de Daniel. Vous connaissez peut-être ce passage, un exemple aussi extrême, particulier, qu'on trouve dans Daniel 3. « Prosternez-vous devant la statue que j'ai faite, leur ordonnait le roi Nebuchadnezzar. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même dans une fournaise ardente. » Détresse de prisonnier, détresse imminente de peut-être mourir, et pas de la plus belle des manières. Mais eux répondirent, « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Même s'il ne le faisait pas. Confiance en Dieu, dans la détresse, refus de compromission, refus de douter même, et acceptation par avance de la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Même si la décision de Dieu est de ne pas intervenir. même si elle est de ne pas délivrer, même si elle est de ne pas guérir, même si elle est de laisser pour un temps ou pour longtemps ou pour tout le temps dans une certaine détresse, dans un certain handicap, dans une difficulté. Là encore, de rudes questions me viennent. Aimons-nous Dieu, lui faisons-nous confiance parce qu'il intervient ? Ou juste, entre guillemets, pour qui il est, même quand il n'intervient pas ? Est-ce que je l'aime parce qu'il me fait du bien ? Ou juste parce qu'il est Dieu ? Pas facile hein, comme question, de se questionner vraiment profondément. Quelle est notre motivation ? Quel est notre amour ? Alors bien heureusement, ouf, Dieu intervient souvent. Dieu intervient même toujours. Oui, je pense que Dieu intervient toujours, mais souvent pas comme on l'aurait pensé ou anticipé. Des fois, il peut intervenir en laissant la mort arriver et nous rappeler à lui. C'est une façon d'intervenir de sa part. Il intervient des fois en laissant l'épreuve arriver. Souvent même, il intervient en voulant même que je traverse une épreuve. Souvent, il intervient même en voulant que je traverse une épreuve. Job aussi posait des questions dérangeantes, comme celle du passage que j'ai mis là. Job 2, verset 10. Ce n'est pas vraiment une question, c'est même plutôt une affirmation qu'une question de sa part. Nous recevrions de Dieu le bonheur ? Et nous ne recevrions pas aussi le malheur ? C'est ce qu'il dit. Et la Bible nous rapporte même les mots qui suivent, comme une évaluation de la part de Dieu d'une telle sentence. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Et il est dit, « En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Ça nécessite certainement à être médité, à la lumière bien sûr du reste de l'Écriture, qui nous révèle plus largement la volonté et le caractère de Dieu pour bien comprendre l'intention de ces mots de Job et de Dieu par rapport à ce qui nous arrive, en bien et en moins bien, en bonheur et en malheur. Seigneur, donne-moi ta paix. En tout cas, quelles que soient les circonstances que tu me fais traverser. Seigneur, fortifie ma foi, quelles que soient les circonstances que tu me fais traverser. Seigneur, renforce mon intimité avec toi, quelles que soient les circonstances que tu me fais traverser. Renforce ma dépendance et ma connaissance de toi. Et aussi, je te demande la grâce de ce que tu changes mes circonstances. Seigneur, selon ta volonté. Que tu me fasses sortir de la détresse. Change mes circonstances, Seigneur. Parce que la demande est effectivement totalement légitime. Même si je suis peut-être trop timoré par rapport à ça. Dans des situations où il faudrait un miracle, est-ce que je crois qu'un miracle peut arriver ? Des fois, c'est aussi un questionnement. Nous pouvons demander à Dieu, effectivement, qu'il change nos circonstances ou celles des autres. Les éprouvantes et les difficiles en particulier, qu'il nous fasse sortir et triompher de l'épreuve, qu'il délivre, qu'il sauve, qu'il soulage, qu'il apaise, qu'il console, qu'il fortifie. Peut-être le fera-t-il, peut-être ne le fera-t-il pas. Peut-être même que nous pourrons intervenir de sa part et les changer nous-mêmes, ces circonstances. Certains miracles de Dieu, petits ou grands, se font en effet souvent par l'intermédiaire de chrétiens, d'autres personnes. Aussi une partie de notre confiance, non ? S'attendre à Dieu n'empêche en tout cas pas d'agir en conformité avec sa volonté. Je vais proclamer comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. C'est ce qu'écrivait Moïse il y a plus de 3000 ans. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Je dois le redire aujourd'hui pour moi-même, me l'affirmer aussi, même si des choses m'échappent encore, comme déjà dit. Ma confiance est en Dieu, je sais qu'il est digne de confiance. Merci Seigneur pour cette précieuse certitude qui aide dans les épreuves. Faut-il pour autant remercier Dieu pour les épreuves ? Dernière question difficile, en conclusion. Je n'approfondirai pas, mais je nous laisserai réfléchir à cela. Faut-il remercier Dieu pour les épreuves ? Peut-être que si on en comprend un peu le sens, ce qui n'est pas toujours le cas, mais des fois oui. Si j'ai conscience des conséquences positives qu'il pourra y avoir dans ma croissance chrétienne, par exemple, croissance en patience, en persévérance, en dépendance de Dieu, ou en bien d'autres aspects. Si j'ai conscience aussi des occasions de témoignage que cela peut permettre, ou en tout cas le témoignage devant les puissances célestes en restant ferme dans ma foi. Peut-être. Mais en tout cas, fort de ce que nous avons déjà partagé, si ce n'est pas pour les épreuves que nous pouvons remercier Dieu, nous pouvons certainement remercier Dieu dans les épreuves, même dans les épreuves. Nous pouvons apprendre en tout cas, car sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Son amour non plus. Son salut, mon salut non plus. Mais Seigneur, tu connais ma faiblesse. Tu connais ma faiblesse. Merci de ton aide, Seigneur. Merci de ton aide. Jour après jour. Amen. J'espère que je ne vous ai pas trop troublé. Hein. J'ai balancé plein de questions dérangeantes. Mais je pense que c'est bien de se les poser. Il faut se re-questionner, se replacer devant Dieu et lui demander son aide dans tout ce qui nous dépasse, tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui nous désarçonne. Seigneur, apprends-moi effectivement la confiance en toi. Que tu interviennes comme je le voudrais, ou que tu interviennes différemment, ou qu'apparemment tu n'interviennes pas. Merci de ton aide, Seigneur. Je vous invite à prier. C'est vrai que, Seigneur, que je me dis souvent que si je place ma confiance en toi, je serai préservé, gardé, et que rien de mal ne m'arrivera. C'est spirituellement vrai, tu l'as dit. Nul ne peut nous ravir de ta main une fois qu'on s'est placé dans ta main. Mais pour ce qui est des circonstances matérielles, physiques, pratiques, la santé et autres, on sait bien par expérience que c'est plus complexe que ça. Merci en tout cas parce que Seigneur, on te voit à l'œuvre. Et effectivement, tu épargnes, tu guéris, tu gardes. Mais des fois, pas, ou a priori pas. Que dans ces circonstances-là, Seigneur, nous ne perdions pas notre confiance, mais qu'au contraire, tu nous aides à grandir dans le fait qu'on se réfugie en toi, dans le fait qu'on s'appuie sur toi, dans le fait qu'on a besoin d'expérimenter alors tout particulièrement ta présence apaisante, ta présence rassurante, ta présence revigorante, ta présence qui nous montre plus loin l'éternité dans laquelle nous sommes inscrits. Et tout ce genre de choses. Mais Seigneur, tu connais nos fragilités, tu connais toutes choses, et c'est bien pour ça qu'on peut et on doit se réfugier en toi. Merci en tout cas parce que l'intimité avec toi, la communion avec toi, tu nous l'offres, quelle que soit la circonstance. Et tu souhaites qu'on la vive toujours plus intensément, quelles que soient les circonstances. C'est peut-être même souvent dans les circonstances difficiles où on aura davantage ce réflexe et cette envie, parce qu'on ressentira ce besoin. Merci Seigneur d'être avec les personnes malades en particulier. Merci d'être avec les personnes éprouvées. Merci d'effectivement les soutenir, Seigneur, de mettre ta main vraiment sur elles, qu'elles sentent ta présence. Et que dans ta grâce, tu guérisses, que tu aplanisses les sentiers, que tu changes les circonstances. C'est notre intercession, c'est notre prière, c'est notre demande, parce que nous savons que tu es le Dieu des miracles aussi. Merci Seigneur pour toutes tes grâces en Jésus-Christ. Merci parce que nous pouvons vivre la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi et toutes ces choses, tous ces fruits que tu veux nous donner par ton esprit. Nous pouvons les vivre en toutes circonstances. Donne-nous en tant qu'Église à ne pas être indifférents à la souffrance et la détresse de l'autre, mais au contraire, et on a pu le vivre ces derniers mois, nous serrer les coudes, nous sentir concernés, nous demander ce qu'on peut faire pour pratiquement aider. en tout cas intercéder. Ça fait partie à la fois de nos obligations et de nos privilèges en tant qu'Église. Et nous te prions, Seigneur, pour ce monde qui, lui, effectivement, a une logique bien différente, ne comprend pas, ne te voit pas à l'œuvre. Touche encore des cœurs, Seigneur. Et tu le fais souvent dans des situations de détresse où là, les gens reconnaissent leur incapacité personnelle et leur besoin d'une aide supérieure. Accorde grâce, Seigneur. Accorde grâce à toutes celles et ceux qui crient à toi sans te connaître encore. Accorde-leur la grâce de te révéler, de faire comprendre qui tu es. Faire comprendre que ça ne veut pas dire que la vie sera rose et facile, mais comprendre que la vie sera dans le bonheur de te connaître et de dépendre de toi. Merci encore pour cela, pour ce bénéfice de ta grâce que tu nous as offert à la croix, de pouvoir vivre effectivement le bonheur de te connaître, le bonheur d'être sauvé, la joie du salut. Que cela dépasse toute autre chose, Seigneur, dans nos vies et que ça puisse rejaillir vers d'autres, par ta grâce et pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.